Bonjour à tous. Merci à tout le groupe de louanges. Merci Anthony pour ce rappel, la vérité. Avant de commencer, on va prier si vous voulez bien. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin nous arrêter et ouvrir ta parole, Seigneur, afin que tu nous parles à travers de ta parole. Et nous voulons aussi te demander, Seigneur, que nous puissions vraiment la vivre durant toute cette semaine. Que tu puisses nous aider, Seigneur, nous encourager, mais également nous fortifier les uns les autres. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez passé une belle semaine avec ce beau soleil. Non, pas cette semaine. Peut-être la semaine prochaine. Voilà qu'une personne vient vers vous et commence à vous demander « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Voilà, cette personne vient vers vous et dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Peut-être notre réponse est « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » On se dit en nous-mêmes, s'il nous pose cette question, c'est qu'il sait qu'après la mort, il y a quelque chose. Il sait certainement qu'il y a un paradis et un enfer. Peut-être que cette personne croit en Dieu et qu'il a même déjà lu tout l'Évangile, et je dirais même toute la Bible. Peut-être que cette personne également est passé par les eaux du baptême et que cette personne va à l'église et nous pose la question « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Quelle est notre réponse ? Ben, Jésus donne cette réponse à une personne qui connaît toute la loi, qui allait jour après jour au temple. Et pourtant, il pose cette question à Jésus. Et on va regarder ce passage, on connaît très très bien ce passage. Dans Luc, nous lirons le chapitre 10, les versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela. » Et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi de ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. Voilà la lecture de ce matin, un texte qu'on connaît très bien. Je dirais pas seulement les chrétiens qui connaissent ce texte. Je crois que toute personne, au moins, l'ont entendu, le bon samaritain. C'est même un compliment quand tu dis à une personne. Généralement, quand tu le dis à une personne, c'est lui dire qu'il fait preuve de gentillesse. C'est une personne qui sait faire du bien. C'est quelqu'un, entre guillemets, qui est bon, qui fait des actions formidables. C'est quelqu'un qui est gentil. Tout le monde connaît ce bon samaritain. Ce matin, je voudrais tout simplement qu'on puisse regarder ce que Jésus est en train de dire. Est-ce que ce texte est là pour nous dire « tu ne fais pas assez » ? Est-ce que ce texte nous culpabilise ? Tu dois venir en aide les pauvres, tu dois venir en aide à ceux qui souffrent, tu dois donner à ceux qui sont en mission, tu dois aller vers ceux qui ont besoin de toi. Jésus est en train de répondre à une question de ce docteur de la loi, une question qui est très importante. Où tu vas passer l'éternité? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Luc, l'évangile de Luc, a mis cette parole au bon endroit. On n'a pas lu ce verset 21 où Jésus dit « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Le salut n'est pas limité qu'à ceux qui sont élites spirituelles, aux sages et aux intelligents de ce monde, comme ce docteur. Dieu a caché la vérité spirituelle de sorte qu'elle soit impossible, impossible par la sagesse du monde, par l'intelligence de ce monde, de comprendre. Mais plutôt Dieu a choisi des enfants qui n'ont aucune instruction, qui n'ont rien accompli durant leur vie. Dieu a révélé à ceux qui ont le cœur de le connaître. Un docteur de la loi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette histoire, mais voilà qu'il se lève pour l'éprouver, il est dit. Il recherche un piège, comme il est expert dans l'Ancien Testament. C'est quelqu'un qui connaît toute la loi et il sait comment piéger un homme ou une femme. Aujourd'hui, si vous regardez sur Internet, sur YouTube surtout, combien d'hommes en train de essayer de piéger un autre homme dans l'Écriture. Je prends l'exemple d'un catholique avec un protestant avec un musulman, un témoin de Jéhovah avec un protestant. On essaye de piéger l'un et l'autre. Le Seigneur a caché aux sages et aux intelligents de ce monde. Voilà que Jésus va répondre à sa question. Il ne lui dit pas « Crois en moi et tu vivras ». Il répond à sa question. Il est en train de lui dire « Qui est-il écrit dans la loi ? Qui l'es-tu ? » On peut traduire « Comment comprends-tu la parole de Dieu ?» Comment tu la récites, l'Écriture? On doit savoir que le juif récitait deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, ce verset qu'il a dit, ce docteur de la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, deux fois par jour. Ainsi, aussi lévitique. Tu aimeras ton prochain. Deutéronome et lévitique. Deux fois par jour. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Et c'est vrai, il a bien répondu dans Matthieu au chapitre 23, verset 35. Un autre docteur dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi. Il a bien répondu le docteur. Mais Jésus rajoute quelque chose qui est très important. Tu as bien répondu, mais il rajoute, fais cela et tu vivras. Fais-le et tu vivras. Si tu veux obéir à tout le commandement de Dieu, eh bien, tu as la vie éternelle. Que dois-je faire? Obéir toute la loi. Ce docteur dit, je connais quand même la loi dans mon cœur. Est-ce que j'obéis toute la loi? Alors, il veut se justifier en disant, qui est mon prochain? Et Jésus va raconter une histoire, ça reste une histoire, mais dans cette histoire, il raconte de trois personnes de cette époque-là et d'un chemin que tous les Juifs connaissent. Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il est tombé sur des brigands. Ils le dépouillèrent, il reçut des coups et le laissèrent à demi-mort. Jésus raconte une histoire. Si je dois raconter une histoire là où ce que j'habitais avant avec un pote d'Anne-Saint-Pierre, j'essaie de lui raconter une histoire qui lui, il se rappelle ce qui s'est passé à Anne-Saint-Pierre. Nous habitons avant dans une cité, et pas loin, il y avait une chaussée que ça descend très, très fort. Et cette chaussée, il y a un tournant. Et ce tournant, on appelait le tournant de la mort. Il y a eu énormément d'accidents et beaucoup de morts, notamment un copain d'enfance a fait un accident là. Et il est en chaise roulante. Et Anne-Saint-Pierre, il y avait ce tournant, mais aussi une bande qui s'appelait la bande des fauves. Tout le monde craignait de ces personnes. Et Jésus raconte cette histoire parce qu'il y avait vraiment une descente très dangereuse. Et souvent, il y avait des brigands qui étaient là. Une histoire, mais en même temps, qui connaît très bien ce docteur de la loi. Et voilà, par hasard, un sacrificateur qui descend. Un sacrificateur, c'est un prêtre, comme vous tous, comme moi. Nous sommes des prêtres. On doit donner l'exemple à tous ceux qui sont alentour de nous. On connaît la loi, on enseigne la loi. Logiquement, on doit s'arrêter. Et il passe à côté. Jésus connaît les cœurs. Et si je vous enseigne aujourd'hui, il connaît également mon cœur. Combien de fois j'ai pas fait comme ce sacrificateur? Où je pouvais faire le bien, je ne l'ai pas fait. Combien de fois je pouvais témoigner de la vérité pour apporter la bonne nouvelle à l'un et l'autre, je ne l'ai pas fait. Combien de fois je pouvais aller voir tel et tel malade et je ne l'ai pas fait. Combien de fois je pouvais faire le bien à quelqu'un qui était alentour de moi et je ne l'ai pas fait. Puis nous voyons un lévite. C'est le serviteur du sacrificateur, celui qui prépare, en quelque sorte, un diacre. Et lui également ne passe à côté, il passe à côté, il ne s'arrête pas. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il est en train de dire, le Seigneur Jésus? Le sacrificateur, le lévite, et Gino qui vous enseigne, sont disqualifiés de la vie éternelle. Tu as raté le commandement que Dieu t'enseigne. Fais cela et tu vivras. J'ai raté. À partir que tu connais la loi de Dieu et que tu ne lui obéis pas, tu es disqualifié. Tu es condamné. Ce que Jésus est en train de lui dire à ce docteur de la loi. Puis Jésus parle d'un Samaritain. Lui s'arrête, il a compassion, il fait tout le nécessaire pour prendre soin de lui. Magnifique. Super. Et Jésus lui dit à ce docteur de la loi, « Lequel de ces trois te semble avoir été ton prochain ?» Ben le docteur répond, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Écoutons ce que Jésus répond à ce docteur. « Va et fais de même. » Deux fois la même chose. « Fais cela et tu vivras. Va et fais de même. » Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ben, obéir toute la loi et tu vivras. Tu auras la vie éternelle. Certainement que ce docteur de la loi a eu une culpabilité dans son cœur. Il y a une épée qui a transpercé son cœur. Comment aimer Dieu parfaitement? Comment aimer mon prochain parfaitement sans désobéir un seul commandement? Comment faire? Il est tombé sur une réalité. Il y a un autre homme qui a essayé de faire la même chose. C'est l'apôtre Paul. La même chose parce qu'il était pharisien. Et dans Romains au chapitre 7, au verset 9 et 10, il dit « Pour moi, autrefois, sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement conduit à la vie. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. » Je ne sais pas si on comprend ce que l'apôtre Paul dit. Non seulement le péché me révèle que je suis pécheur, mais en plus, il me révèle que je suis mort. Au lieu de la vie éternelle, je suis mort. Ce docteur croyait recevoir la vie éternelle en citant deux fois par jour le commandement de Dieu. Il y a cette épée qui a transpercé son cœur. Jacques au chapitre 2, au verset 10, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Romains au chapitre 3, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Luther, un homme qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Il s'est même fermé sur quatre murs pour obéir toute la loi. Il a eu une culpabilité dans son cœur qui s'est dit « Je dois me repentir. Je dois passer par la repentance. » La loi n'a pas pour but de sauver du péché, mais elle nous révèle le péché. Le rôle de la loi est de faire prendre conscience à l'homme et à la femme qu'il est pécheur, coupable, disqualifié, mort. Le jugement est tombé sur lui. Souvent, nous mettons l'accent sur le bon samaritain. ça reste une histoire. Mais dans cette histoire, il y a une question. Et dans cette question, Jésus répond, qui est mon prochain ? Jésus connaît les cœurs de chacun de nous. Et notamment, il connaît les cœurs des Juifs. Les Juifs aimaient son prochain, ceux qui ne dépassaient pas les frontières. Ils savaient aimer ses frères, ses sœurs, la famille, mais tout ce qui sortait des frontières, ce sont des païens impurs. Regardez les apôtres au début. Ils sont quasiment tous, je vais dire même tous, ils n'aiment pas les autres. Ils sont en quelque sorte racistes. Et Jésus lui montre, c'est qui son prochain ? C'est celui que tu n'aimes pas. C'est ton ennemi. Celui que tu considères païen, impur. Le bon samaritain n'est pas un homme qui est sauvé, qui a fait des bonnes œuvres et qui l'est sauvé. Non, les œuvres ne sauvent pas. Et le texte ne dit pas qu'il a obéi toute la loi. Il a fait une bonne action, mais il reste pécheur. Combien d'hommes et de femmes pouvaient regarder à la télévision qui ont fait des choses magnifiques. Un homme saute au canal pour récupérer un autre homme. Un homme rentre dans une maison où il y a le feu et sauve telle et telle personne. Une femme sauve des enfants. Combien de personnes magnifiques qui font des gestes magnifiques, extraordinaires. Le faire une fois, c'est bien. Le faire deux fois, c'est très bien. Le faire 10 fois, c'est excellent. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est en tout temps et parfaitement. Jésus a pris un Samaritain. Pourquoi il a pris un Samaritain ? Il pouvait prendre un Romain de cette époque-là. Pourquoi un Samaritain ? Ben, le Romain, il avait des compromis avec les Juifs. Mais les Samaritains, non. Les Samaritains, les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Et quand un Juif se disputait avec un autre Juif, il le maltraitait comme un Samaritain. On voit ça dans Jean. Ils ont traité Jésus comme un Samaritain. Au Jean, chapitre 8, verset 48, les Juifs lui disent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu as un démon ? C'est pourquoi Jésus prend un Samaritain. Pour qu'il réalise, hein, tu aimes Dieu, mais est-ce que tu aimes ton prochain ? Jésus remet les choses en ordre dans Matthieu chapitre 5, versets 43 et 44. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il n'y a pas ça. Tu es et tu haïras ton ennemi. Il n'y a pas ça dans Lévitique. Ce sont les rabbins qui ont rajouté parce qu'ils ont du mal avec les ennemis. C'est facile de mettre quelque chose dans la parole de Dieu. C'est facile de retirer quelque chose de la parole de Dieu. Mais Jésus est en train de rectifier la vérité comme ça a été annoncé par Anthony. Aimez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Faites du bien à vos ennemis. C'est ça son prochain. Est-ce que ce passage nous culpabilise ? Gino, tu ne fais pas assez pour les pauvres. Tu ne fais pas assez pour ceux qui souffrent. Tu ne fais pas assez pour telle et telle mission. Tu ne fais pas assez pour les malades. Non, ce texte culpabilise le religieux. Ce texte est en train d'annoncer l'évangile tête à tête à une personne. Ce docteur aurait dû se mettre à genoux devant Jésus. Quand il a entendu ça, il aurait dû mettre ses genoux par terre et dire cette prière. dans Luc. Dans Luc, au chapitre 18, au verset 10, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ce publicain n'osait pas lever les yeux au ciel. Il avait une honte, il était inspiré sur son péché, sur sa désobéissance à la loi. La punition qu'il méritait, c'était la mort. Il est disqualifié. Il ressent qu'il est pécheur. Alors, il se frappe la poitrine. C'est vrai que les Juifs, la plupart, quand ils priaient, ils mettaient ses mains sur la poitrine et regardaient par terre. Mais ce publicain serrait ses poings pour frapper son cœur de manière à répéter. Ce geste confesse que le cœur est la source de toute méchanceté, de toute désobéissance à toute la loi. Ô Dieu, d'être favorable envers moi, purifie-moi de mes péchés. Il a été justifié. Aucun travail, aucun mérite, sans rituel, sans œuvre, il est déclaré juste par Dieu. J'avais oublié ma dernière feuille où il y a la conclusion. Ce docteur aurait dû plier son genou envers Jésus. Dans cette conclusion, deux points et je termine. Si vous voulez la vie éternelle, accomplissez toute la loi parfaitement. La bonne nouvelle, c'est accepter la mauvaise nouvelle qui concerne notre état, de notre cœur, que je suis conscient que je suis un pauvre pécheur, misérable. Alors tu réalises que tu as besoin d'un sauveur. C'est Jésus-Christ. Lui a accompli toute la loi, qui veut dire qu'il a vécu la loi. Pour toi, pour moi, pour ce docteur. La bonne nouvelle, c'est qu'il est prêt à te pardonner. Une fois qu'il t'a pardonné, son esprit vient dans notre cœur et tu reçois tout son amour. Vous vous souvenez de cela, de tout son amour dans notre cœur. Et comme il a été dit par Anthony, Jésus est le chemin qui mène vers le Père. C'est une direction que nous devons suivre, la direction d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes à l'Église. Pourquoi nous sommes venus à l'Église ? Mais pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier, pour le dire « Merci Seigneur, parce que tu as eu compassion de moi. Merci Seigneur, parce que tu as eu miséricorde de moi et tu m'as fait grâce. tu m'aimes. Et en retour, je veux t'aimer de tout mon cœur. Et comment aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme? Mais c'est de rester sur ce chemin, le chemin de Jésus. En dehors de ce chemin, on ne sait pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Il est venu pour accomplir cette loi. Alors, j'ai envie de l'aimer, de venir à l'église pour l'adorer, pour le louer, mais également, je veux le connaître un peu plus encore aujourd'hui. Comment le connaître aujourd'hui un peu plus? C'est vrai que nous passons du temps à la maison à lire la parole de Dieu, la bonne semence, mais combien nous avons le privilège d'avoir une fois par mois l'étude ici, pour le connaître un peu plus, pour l'aimer de tout mon cœur. J'ai envie d'aller à la réunion de prière, j'ai envie d'aller à l'étude, parce que c'est mon Créateur, c'est mon Dieu, c'est mon Sauveur, c'est celui où j'ai mis toute ma confiance. C'est le geste de cet amour où je veux apprendre de nouveau à le connaître. Premier point, l'aimer de tout mon cœur. Deuxième point, comment tu réponds aux questions de ceux qui viennent vers toi? Ça arrive souvent, je dirais pratiquement tout le temps. Ces personnes viennent pour t'éprouver et pour se justifier. Je me souviens que la première fois que j'ai entendu la parole de Dieu, c'était à travers de mon frère. Mais je connais mon frère très bien. Il me parle du Seigneur Jésus-Christ. Je disais, c'est toi qui as besoin, Jésus. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, entre guillemets. J'essaie de faire du bien alentour de moi. Je n'ai pas besoin du Seigneur. Devant lui, je lui ai dit ça. C'était en pleine soirée. Puis, je suis rentré dans ma chambre. Et ces paroles sont venues dans mon cœur. Je voulais me justifier. Combien de personnes veulent se justifier? Mais on ne se justifie pas devant Dieu. Devant les hommes, on essaye. Parce que Dieu connaît notre cœur. Et il connaît mon cœur. Alors ce deuxième point également. Comment tu aimes ton prochain. La semaine passée, on a eu cette campagne d'évangélisation. Le vendredi, il y avait ce film avec ce journaliste et son épouse. Ce journaliste voulait vraiment se justifier. Il a cherché des moyens pour prouver à sa femme que c'est faux. J'étais là, assis à l'arrière. Et dans mon cœur, j'étais triste. Triste parce qu'il n'y avait personne dans l'église. Je me disais, Seigneur, pourquoi il n'y a personne? Il y a mes frères, ils sont investis à passer des invitations. Combien de personnes ont prié? Et il n'y a personne. J'étais triste. Et dans cette tristesse, il y avait une autre tristesse qui était venue. C'était, où sont les chrétiens? S'il y avait 30 non-chrétiens, comment on pouvait les entourer, ces 30 non-chrétiens? J'étais triste. Je suis le premier à dire, on ne sait pas tout faire. On ne sait pas venir le vendredi, on ne sait pas venir le samedi. Je peux comprendre. Je ne suis pas là pour en train de juger l'une et l'autre personne. Je suis en train de constater, de voir dans mon cœur, en regardant ce film, je voyais cette personne qui pleurait pour son mari, son prochain. Elle pleurait sans cesse pour ce prochain. Et je me disais dans ce film, Gino, c'est quand tu as pleuré pour ton prochain? Dis-moi, c'était quand? Je ne me souviens plus quand j'ai pleuré pour mon prochain. quand tu as pleuré à la réunion de prière pour ton prochain? Je ne me souviens plus. On aime notre prochain. Pourquoi pas venir à la réunion de prière et pleurer pour notre prochain? Jésus a pleuré pour les siens. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même, il y a quelque chose derrière. C'est que nous sommes heureux. C'est ce que Jésus était. Il est heureux d'accomplir cette loi. Et nous sommes sur ce chemin. Le Seigneur nous donnera la force pour cette semaine de le faire et de l'accomplir.